Salut à tous, c'est Ben, bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast Le Safety, votre podcast NFL du site Dunkey Hebdo, disponible dorénavant sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict ou encore SoundCloud. Pour m'accompagner dans ce nouvel épisode, Alan, ça va Alan ?
Salut Ben, ouais salut tout le monde, ça va super, un petit peu de recul là sur la draft, donc ça fait du bien.
Voilà, oui, on va être honnête, on a enregistré un premier jet de ce podcast, et alors malgré toute l'expérience qu'on peut avoir avec les podcasts Dunkey Hebdo sur le basket, eh ben les problèmes techniques, même avec l'expérience, ça peut arriver, donc on a eu un petit souci technique, pas de problème, on l'avait enregistré entre le premier tour et le second et le troisième, voilà, entre le jeudi et le vendredi. Petit souci technique, on est revenu avec une semaine de recul, donc on va quand même bien sûr parler de la draft, mais chez le safety, pas de notes, c'est un exercice assez hasardeux, les résultats sont parfois douteux, on va plutôt analyser le premier tour à travers plusieurs grands thèmes, on en a 5, et on va pas tergiverser, on va commencer dès maintenant avec notre premier thème, vitesse, vitesse, vitesse.
There are many first evers that are part of this draft, including the first ever official draft selection by the Las Vegas Raiders. And I've got it right here. So with the 12th pick of the 2020 NFL Draft, the Las Vegas Raiders select Henry Ruggs, wide receiver, Alabama. Congratulations, Raiders. Congratulations, Henry.
Henry Ruggs, le premier receveur sélectionné par les Raiders. Autre receveur sélectionné, toujours au premier tour, Jalen Reagor, en 21 par les Eagles. Et enfin, un troisième receveur qu'on va faire entrer dans cette catégorie vitesse, 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 Brandon Ayuk, qui est arrivé chez les 49ers avec le choix 25 dans un échange avec les Vikings. Alan, avec ces trois choix-là, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'effet Tyreek Hill ?
Oui, je pense. Même si, on le dira tout de suite, Tyreek Hill est unique dans le profil qu'il a et dans ce qu'il apporte. Mais on voit voilà depuis plusieurs années comment les receveurs avec beaucoup de vitesse sont très très prisés à la draft, tout simplement pour les choses qu'ils apportent avec le ballon et sans ballon. Voilà. C'est des joueurs qui changent la géométrie du terrain, changent comment on te défend. Et ça se voit beaucoup avec les Chiefs, notamment quand ils ont... Tyreek Hill sur le terrain, ça offre énormément de possibilités dans les zones intermédiaires, ça offre énormément de possibilités aussi sur des autres jeux, des jeux gadgets, des passes écrans pour sur receveur, ce qu'on appelle des bubbles. Donc, c'est très prisé, et voilà, comme on voit depuis quelques années, ils sont parfois surdraftés. Voilà, on va pas dire ici que ces trois joueurs-là auront un énorme impact dans l'NFL, on n'en sait rien en fait, on peut l'espérer, ils ont montré tous des belles choses à l'université, mais ce qui est sûr, c'est que ces trois choix-là au premier tour, et le fait que voilà, quand Henry Ruggs parte avant CeeDee Lamb ou Jerry Jeudy notamment, bah, ça témoigne de ça, ça témoigne de cette course à l'armement de vitesse.
Totalement. Alors nous, on a commencé dans le podcast NFL récemment, mais ça fait pas mal de temps qu'on parle NFL tous les deux, et c'est vrai que c'est un débat qu'on a souvent eu sur la vitesse et à quel point ça peut être une arme extrêmement dangereuse. Après, moi, petit bémol, je trouve que là où tu l'as dit, c'est des joueurs qui peuvent apporter avec ou sans le ballon, c'est pas parce que tu mets un joueur rapide, par exemple, sur ton terrain, que la solution, elle sera tout de suite, tu vas pouvoir ouvrir le jeu pour tes autres cibles ou ton attaque. C'est pour ça que moi, à l'intérieur de ces trois noms qu'on a cités, Ruggs, Reagor, Ayuk, pour moi, en fait, c'est trois exemples de la façon dont tu peux utiliser l'attaque. Pour moi, si je classifie un peu ça, on a la vitesse par réaction. Pour moi, c'est le choix des Raiders avec Ruggs. On a la vitesse pour faire respirer son quarterback, les Eagles avec Reagor, et la vitesse pour le système avec Ayuk et les 49ers, pardon. On va peut-être commencer par le choix dont on a parlé, celui le premier et le plus important, on peut le dire comme ça, celui des Raiders avec Henry Ruggs. Alors dans la mock draft, l'épisode 1 et 2 qu'on a enregistré, vous pouvez aller l'écouter même si la draft est déjà passée, j'avais pris un corner, CJ Anderson, pour les Raiders. Alan, tu l'as dit, à ce moment-là, quand les Raiders ont choisi Henry Ruggs, CeeDee Lamb était disponible, Jerry Jeudy était disponible, est-ce que c'est un choix que tu comprends, du coup, de se tourner vers Henry Ruggs à ce moment-là?
Oui, je peux le comprendre. Je pense pas que c'est celui que j'aurais fait, personnellement, mais moi, qu'est-ce que j'y connais? J'ai pas rencontré les joueurs, j'ai moins d'analyse de tape que tous les gens qui travaillent dans les organigrammes NFL. Donc oui, je le comprends. dans le sens où voilà, ils se Gruden et peut-être Mayock se sont dit voilà, ça va permettre d'aérer le jeu, parce que Derek Carr, c'est un joueur qui a vraiment jamais eu une cible lointaine disponible. Il avait des très bons receveurs, des joueurs dans les 50-50 sur les extérieurs, sur les tracés intermédiaires, Crabtree, Amari Cooper, ces joueurs-là. Là, il a Tyrell Williams, il a Darren Waller, qui est un très bon tight end, un tight end un peu plus moderne, c'est-à-dire pas qui peut faire des choses balle en main, qui est pas juste collé au tackle. Donc je peux le comprendre dans le fait que c'est un profil qui pouvait manquer et qui peut peut-être débloquer quelque chose, que même psychologiquement ou seulement dans le jeu de Derek Carr. Mais c'est peut-être une surréaction, comme tu l'as dit.
Totalement, tu l'as dit. Derek Carr avait pas vraiment de cible. Enfin, encore une fois, je vous renvoie à ma running joke de la mock draft. Hunter Renfrow, Tyrell Williams, Nelson Agholor et Darren Waller, tight end, pour ce qui est des cibles de Derek Carr, c'était loin d'être suffisant. Après, il faut aussi, je pense, comprendre que le jeu installé par John Gruden, ça reste beaucoup de courses, beaucoup de passes écrans, beaucoup de lancers rapides. Pour ce qui est de, voilà, l'identité du jeu, on n'est pas, tu vois, on a parlé d'un rapprochement Kansas City Chiefs, on est à pôle totalement opposé par rapport à ce que peuvent faire les Chiefs. Et ça, il y a même des stats pour appuyer ça. Quand on regarde, on analyse le jeu des Raiders, on regarde les personnels utilisés, c'est des personnels notamment à 3 tight ends, personnel 13, un running back, 3 tight ends sur 10% de leur jeu offensif. Enfin, c'est énorme. La moyenne de la ligue, elle est à 3%. Enfin, ils utilisent ça 3 fois plus que le reste de la ligue. Et seulement les Titans utilisaient plus souvent un personnel à 3 tight ends. Ils utilisaient aussi beaucoup le personnel de running back, de tight end, 12% de leur jeu offensif. Là encore, 3 fois plus que le reste de la ligue et dans le top 3 NFL. Donc beaucoup de formations lourdes. Et c'est ce qui explique peut-être que Derek Carr, comme tu l'as dit, c'était pas le QB qui balançait le plus grand nombre de bombes. Donc peut-être qu'Henry Ruggs va aider ça. Mais moi, je me demande, est-ce que là où des Tyreek Hill et des Hollywood Brown, tu vois, peuvent glorifier les cibles à côté d'eux, parce que les autres cibles posent des vrais mismatchs, est-ce que le reste des playmakers des Raiders fait vraiment assez peur pour que Henry Ruggs ouvre le jeu pour eux?
Très bonne question. Darren Waller, pour moi, c'est un vrai bon joueur. C'est un peu dans le style Prime Jordan Reed, c'est au Redskins, ce genre de tight end. Qui est pas vraiment un tight end selon moi, mais ça c'est un avis personnel, mais qui est vraiment un playmaker. Après, Hunter Renfrow, c'est un slot. Tyrell Williams en numéro 1, c'est pas quelque chose que je veux dans mon attaque. Et après, Agholor a des problèmes avec ses mains, hein. Je pense que Philadelphie en est témoin. Je suis d'accord avec toi, c'est pas exceptionnel, franchement. Je suis pas sûr qu'il arrive à tout ouvrir, mais en même temps, est-ce que Gruden va pas designer des jeux pour lui donner la balle, parce que Henry Ruggs et ces joueurs-là, les Rigor, les Ayuk, qui sont très bons pour allonger le terrain sur des tracés verticaux, mais ils sont aussi bons quand tu leur donnes le ballon dans l'espace. Donc Henry Ruggs, je pense, sera aussi utilisé sur des jet sweeps, sur des actions où on lui donne la balle rapidement et on lui demande de créer. C'est pas mal, c'est peut-être beaucoup lui demander, mais je pense que c'est quelque chose qu'il peut apporter peut-être plus tout de suite que juste simplement courir, parce que philosophiquement et dans les tracés, c'est quelque chose qui se fait moins. C'est-à-dire que tu aurais mis Henry Ruggs aux Chiefs, là, pour moi, c'est une attaque nucléaire. Mais là, c'est peut-être juste, c'est peut-être ta raison, la catégorisation de réaction que tu disais sur les Raiders et ce choix-là, elle est intéressante. Mais moi, j'attends de voir comment ils vont l'utiliser. Ça m'intéresse vraiment de voir, voilà, chaque jeu, comment ils vont le mettre en place.
C'était justement une de mes questions. Est-ce que tu fais confiance à Gruden pour capitaliser sur les forces de Ruggs, qui se limite pas à être juste une cible, c'est pas juste un speedster comme on peut le dire, c'est pas juste un joueur qui court vite, parce que enfin c'est aussi un joueur qui est capable de créer à partir de rien. Enfin, je fais référence à la slant face à South Carolina, que je pense que c'est le highlight que tout le monde a vu, où il prend une pauvre slant et il la ramène sur 70 yards. Enfin, ça c'est le genre de jeu qu'il peut faire. Après, moi je reste quand même je reste sceptique sur la capacité de John Gruden à vraiment dessiner des jeux qui vont le mettre en valeur, premièrement. Et puis deuxièmement, j'ai la sensation aussi qu'avec ces équipes, j'ai parlé de Tyreek Hill et de Casey, j'ai parlé de Baltimore aussi avec Hollywood Brown dans une moindre mesure, il y a aussi une dimension qui se limite pas forcément à avoir une cible dangereuse sur la vitesse, mais c'est aussi, par exemple, côté Chiefs, t'as aussi Mecole Hardman, qui court extrêmement vite et qui pose énormément de problèmes. Et t'as aussi, t'as la dimension Patrick Mahomes où tu te dis, Tyreek Hill, je suis obligé de le couvrir sur 50 yards parce que je peux me prendre une bombe sur 50 yards. Et par exemple, vis-à-vis de Baltimore, t'as la problématique de, si je recule mes safety, je recule tout le monde pour couvrir un Hollywood Brown. Alors déjà, je peux me faire cisailler sur le jeu intermédiaire par les tight ends. Et puis, trop reculer mes safety, c'est commencer à laisser certains défenseurs lourds sur du 1 contre 1 dans l'espace face à Lamar Jackson, et je peux me prendre des 30 yards assez facilement. Et j'ai pas l'impression que j'ai cette double problématique côté Raiders. C'est juste ça, mon petit problème face au choix d'Henry Ruggs, mais on peut avancer sur peut-être Jalen Reagor. Mais juste, par exemple, pour donner un exemple très concret, on sait tous les deux que la défense des Chargers, elle est... Et séduisante sur le papier, elle est vraiment très intéressante.
Ouais.
Et moi, je me dis, tu vois, je suis coordinateur défensif des Chargers. Or, déjà, Darren Waller, ça reste un très bon tight, ça reste un tight end solide. Je peux lui coller Darwin James. Le reste des receveurs me font pas trop peur. Je peux partir sur du man-to-man. Et par exemple, sur Ruggs, je mets un Chris Harris et je recule mon safety. Et je vois pas en quoi, en fait, l'attaque des Raiders, mis à part si elle arrive vraiment à m'écraser au sol, elle est gênante dans une défense prise comme ça.
Ouais, ça va dépendre de, on se pose des questions sur le personnel à côté de Ruggs et sur le play calling. C'est qu'il y a un problème, tu vois. Pour moi, c'est qu'il y a un problème si on se pose ces questions-là. Donc, ça va être vraiment de voir comment ils font. C'est vrai que Gruden, depuis 2 ans, n'est pas le designer de jeu le plus innovant, je pense. C'est quelque chose qu'il aime bien. Moi les gars qui sont encore en train, il faut establish le run, les meilleurs coachs, les Belichick, qui sont même pas des esprits offensifs en plus, hein. les Reed, c'est juste donne-moi tes meilleurs jeux, quoi. On est en 2020 maintenant, tout le monde peut, il faut essayer, il faut mettre des points. Donc j'attends beaucoup de Gruden, parce qu'en plus ils ont drafté 2 autres playmakers au deuxième tour. Au troisième tour, un joueur qui a joué QB l'année dernière à Kentucky, mais qui est un running back receveur, donc un total hybride qui dit qu'il veut utiliser un peu sur plein de jeux différents, et un gros receveur sur l'extérieur. Donc tu vois, ils ont pris 3 joueurs à qui Carr peut lancer la balle, plus un guard, ça c'est un peu moins important parce que leur ligne était bonne. Donc voilà, j'attends pas mal de voir ce qu'ils vont faire avec ça.
Des choix qui s'inscrivent, on va peut-être revenir sur ça plus largement dans un autre épisode, mais dans une course à l'armement assez assez évidente et même pas cachée du côté de l'AFC West. Deuxième joueur qu'on va aborder dans ce trio à accès vitesse, Jalen Reagor. Alors moi, Jalen Reagor, si tu te souviens, je l'avais un peu axé sous l'angle de la vitesse pour aider ton quarterback. Encore une fois, c'est un choix, celui-ci qui a été extrêmement critiqué parce que Justin Jefferson était disponible, le receveur de LSU à ce moment-là. Et alors que toutes les mock drafts l'annonçaient du côté de Philly, le front office a décidé de pas le sélectionner, a préféré Jalen Reagor. Alors le choix là, en fait, je peux le comprendre. On reste sur une, et là encore une fois, on parle plus de fit que de joueur en lui-même. Philosophiquement, je comprends le choix. On regarde la saison dernière, Philly joue avec, encore une fois, je parle de personnel, 2 tight ends. Personnel 12, un running back, 2 tight ends sur 54% de ses jeux offensifs, c'est énorme. La moyenne de la ligue, elle est à 23%, et les seconds, les Titans, étaient à 35, 54-35. Tu vois la différence, enfin, c'est incroyable. C'est un résultat, bien sûr, de l'hécatombe niveau receveur, qui faisait qu'en gros, Zach Ertz et Dallas Goedert étaient en gros les 2 seules cibles qui restaient à peu près vivantes du côté de Philly. Mais moi, je comprends le choix d'un Jalen Reagor quand tu vois l'âge d'un DeSean Jackson, qui était vraiment ta cible profonde. Si tu veux offrir des armes à Carson Wentz pour viser profond, et que tu veux aussi ouvrir le jeu pour tes tight ends, et ben avoir une cible profonde, ça a du sens. Peut-être que le joueur est surdrafté, comme beaucoup l'ont dit, on verra. Mais là, en fait, contrairement à Las Vegas pour les Raiders, où j'aimais le joueur, mais le fit me posait question, je comprends la direction, mais le joueur m'interroge plus.
Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et surtout, j'ai du mal avec les analystes draft qui bâchent ce choix-là juste parce que eux, ils préfèrent Justin Jefferson, en fait. Tu vois, c'est en vrai... Je suis désolé, hein, mais depuis, ça fait quoi, 5-6 ans qu'on suit un peu la draft NFL tous les deux, et les vainqueurs de la draft le jour d'après, c'est pas souvent ceux le jour l'année d'après. Hein. Donc, c'est une science totalement inexacte. Donc, juste bâcher les Eagles parce que tout le monde. Et c'est vrai, Justin Jefferson est vraiment très très bon receveur. Surtout, il a été très mis en lumière du côté de LSU, là où Jalen Reagor a connu une saison délicate à TCU. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et dans ses habilités, il faut pas oublier que c'est un joueur qui avait pris du poids. Et je pense que il a raté son 40 yards au combine où il a fait 4-47, je crois. Bon, je crois pas non plus à son 4-22, comme je te disais la dernière fois, fait dans un pro day 3 jours avant dans un stade confiné. Mais peut-être une moyenne entre les deux serait peut-être un peu plus respectable, quelque chose dans les 4-30. Quand tu le regardes, c'est un joueur hyper rapide, c'est un joueur qui apporte sur une unité spéciale. Et comme les unités spéciales, bah, c'est de moins en moins présent en NFL, bah, de facto, ces joueurs-là, on les met plus sur le terrain en attaque. Et donc, je suis totalement d'accord, j'ai rien à rajouter sur Jalen Reagor. Je pense que c'est un choix fait pour ouvrir l'attaque des Eagles qui, depuis 2 ans, depuis qu'ils ont gagné le Super Bowl, qu'ils ont perdu Torrey Smith, que Alshon Jeffrey est blessé, que Agholor arrive plus à attraper une balle, et ben, tu bloques les deux tight ends sur des tracés entre 0 et 15 yards et tu bloques les Eagles.
Mmh, ouais, totalement. Et pour conclure ce choix Jalen Reagor, juste, t'as parlé de ça et pour moi c'est super super intéressant et c'est à mettre en lumière. Je sais pas si t'as vu passer ce tweet sur en fait les passes précises accurate qu'ont reçu les principaux receveurs de cette draft. Justin Jefferson était premier, 69% des balles lancées à LSU dans sa direction étaient précises. Premier. Pour ce qui est de Judy, Ruggs et Lamb, donc les trois premiers receveurs sélectionnés, ils se situaient tous entre 60 et 57%. Est-ce que tu es capable de me deviner où se situait Jalen Reagor à TCU?
Déjà, je peux te dire que le QB, il était très mauvais. C'était un true freshman, donc un très jeune. Ça s'appelait Max Degard, je crois, j'ai de mémoire. Pas bon, je te dirais que c'est moins de 50%.
31.
Ouais. Bon, voilà.
Tu te rends compte, même pas une passe sur trois qui était précise. C'est quand même, et ça pose plus largement la question de l'évaluation aussi. Comment t'évalues quelqu'un qui reçoit le deux tiers de ses ballons où ils sont censés arriver et quelqu'un qui reçoit pratiquement jamais le ballon où il est censé arriver? Enfin, ouais, ça pose cette question là. Et rapidement pour finir ce trio vitesse, je parle beaucoup sur la vitesse parce que c'était un de mes thèmes. Alan va plus parler sur le sujet d'après. On va finir Brandon Ayuk, notre triptyque de receveur, le receveur d'Arizona State sélectionné donc par les 49ers. Alan, là où certains êtres humains sont attirés par d'autres êtres humains, Kyle Shanahan, il est vraiment attiré par les receveurs rapides qui sont capables de faire des choses balle en main.
Ouais. Si t'écoutes ce qu'il dit après, c'est toujours ça. Après la draft, tout le monde dit, t'étais mon 1, t'étais mon 2, mais Shanahan a dit que Brandon Ayuk était son receveur numéro 1. Donc devant le trio que tout le monde a annoncé, devant Justin Jefferson, devant Mims, devant Reagor, devant Higgins. Donc, c'est quelque chose de très, très notable. Et ouais, Brandon Ayuk, c'est un joueur qui, quand tu lui donnes la balle dans l'espace, il est exceptionnel en fait. Je crois qu'il avait une moyenne de plus de 10 yards après réception. Ouais, NCA, c'est vraiment très 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 fort. Et oui, c'est un joueur dans la lignée de Deebo Samuel. Je pense qu'ils ont ces deux joueurs-là. Ils aiment beaucoup jouer avec un fullback, un tight end. Et ces deux joueurs-là, c'est, je pense, la compo qu'on verra l'une des plus sur première et deuxième tentative du côté des 49ers. Et puis voilà, ils rajoutent un playmaker à Jimmy G. Je pense que c'était un petit peu, fallait remplacer la paire d'Emmanuel Sanders. Dante Pettis n'a jamais vraiment percé, alors qu'il a été drafté au deuxième tour, si j'ai une bonne mémoire, qui était lui aussi un joueur rapide, hein, parce que j'avais fait un petit historique des joueurs rapides sous les 4-40 sélectionnés dans les deux premiers tours depuis 2015. Et il n'y a pas que des réussites. Dans tes petits, c'en est un exemple. Donc ouais, franchement, même si voilà, tout le monde disait, t'imagines CD Lamb, t'imagines Henry Ruggs, ils ont pris un joueur à fort potentiel défensif et puis ils sont ensuite remontés le prendre. Et si c'était vraiment leur numéro 1, ils doivent être très satisfaits.
On reviendra un peu plus largement dans un de nos derniers thèmes sur la draft des 49ers. Du coup, au moins, ce qu'on peut dire à minima sur les 49ers, c'est qu'au moins, ils investissent pour entourer Jimmy Garoppolo. Transition qu'on jugera plus ou moins réussi, vers un de tes thèmes, Alan, c'est celui des des QB mal entourés ou en tout cas des à minima des front office qui se reposent un peu sur leur laurier vis-à-vis de leur QB talentueux.
Ouais, en vrai, en gros, quand on en parle tous les deux, c'est vrai que j'ai une vision assez QB centrée. Les gens vont le découvrir, ceux qui nous écoutent. C'est une chose assumée. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que quand t'as un QB générationnel, et là, dans la, moi, j'avais Seattle et Kansas City dans ce slot-là, tu m'as proposé de rajouter Green Bay, je trouve ça très intéressant avec ce qui s'est passé la semaine dernière. En fait, c'est pas que on les entoure mal, c'est qu'en fait, ils vont te masquer plein de décisions dégueulasses. Alors, décisions dégueulasses, je parle de Seattle. Seattle, après, c'est un peu compliqué parce qu'on avait fait j'avais eu cette idée-là après le premier jour. Mais ce sont deux équipes qui, je trouve, se sont vraiment bien, bien rattrapées et ont fait des bonnes choses dans les jours suivants. Mais si je parle de Seattle, les premiers tours de draft de Seattle depuis quelques années, c'est un inside linebacker. Bon, très bien, il va jouer dans leur formation 4-3. Et c'est une équipe qui joue tout le temps ça. Il va être là et ça va être bien. Donc c'est Brooks, il s'appelle, je crois, Jordan Brooks, le linebacker. LJ Collier, l'an passé, pas donné grand-chose. Rashad Penny, en 2018, en running back. Sinon, ils trade back à chaque fois. Et ça, c'est une bonne stratégie. C'est une stratégie Seattle, stratégie Patriots. Tu trade back. Tu sais bien que la draft, c'est pas un truc exact. C'est une science infuse. Donc, autant avoir le plus de balles possible dans ton chargeur. Là, ils l'ont pas trop fait, en fait. Ils ont trade up pour certaines choses. Et en fait, voilà, c'est juste que, voilà, avoir Russell Wilson, avoir Patrick Mahomes, eh ben, ça te permet, bah, de masquer des erreurs que ton fils fait. C'est-à-dire que, bon, la O-line de Seattle, même s'il en est responsable aussi parce qu'il garde beaucoup la balle, c'est une mauvaise O-line depuis pas mal de temps. La défense, je pense que ça aurait pu être adressé en fin de premier tour. Surtout le backfield défensif, même si voilà, ils ont récupéré Quinton Dunbar, ça aurait pu être utilisé. Et puis du côté de Casey, je sais que voilà, c'est un petit peu un cheval de bataille, mais pour en un running back, je sais, il va, et en plus ce qui est énorme, tu sais, c'est qu'il va être exceptionnel dans cette attaque. Clyde Edwards-Helaire, tout le monde va dire c'est un super choix. Ça m'étonnerait même pas qu'il soit rookie de l'année, tu vois, dans façon Kareem Hunt. Mais je me dis, voilà, à quoi ça sert? T'as gagné le Super Bowl avec des running backs que t'as pris sur le marché parce que t'avais perdu Kareem Hunt. T'avais drafté un petit Darwin Thompson l'an passé qui a montré des choses en troisième tentative. Je me dis, voilà, j'aurais fait comme les Steelers, tu vois, j'aurais repris comme chaque année un running back au quatrième tour. Et au premier tour, j'aurais adressé bah, le backfield défensif, parce que t'as perdu Bashaud Breeland, mais t'as que Ward et Fenton. T'as Chris Jones aussi, que tu vas potentiellement perdre, parce que tu vas pas pouvoir payer tout le monde. Mais je me dis que, tu vois, tout ça, ça sert un peu à rien, parce qu'en fait, ils ont Patrick Mahomes. Donc, en vrai, voilà, c'était juste une idée qu'en fait, avoir un QB générationnel, ça te masque plusieurs choses, et surtout, c'est un truc que je te disais la dernière fois, parce que Russell Wilson a permis aux Seahawks de se reconstruire, tout en ne tankant pas. Parce que tellement il était fort, il avait une équipe pas bonne à côté de lui. Entre la fin de la Legion of Boom et ce qui se passe maintenant, il y a une mini-transition d'un ou deux ans où les Seahawks ont quand même été en play-off limite des fois, alors qu'ils avaient un effectif pour pas aller en play-off.
Totalement. Pour moi, il y a vraiment deux cas, et Green Bay un peu à part, on abordera dans notre troisième grand thème autour du cas Jordan Love, qui est une des grosses histoires de cette draft. Seahawks, Chiefs, je vais un peu les écarter. C'est vrai que Seahawks, alors la ligne est pas bonne, on le sait, et en fait, critiquer Seattle après la draft, je comprends, c'est facile parce que clairement leur philosophie, c'est soit on trade down, soit on prend un joueur parfois 50 choix plus tôt que ce qui avait été prévu par les différents analystes, mais on s'en fiche parce qu'on estime qu'il va copier notre, qu'il va bien rentrer dans notre système. Après, comme tu l'as dit, moi, là où j'ai du mal à les critiquer, et oui, peut-être que c'est dû au génie de Russell Wilson, c'est que depuis la qualification de Russell Wilson, c'est 7 playoffs en 8 ans. Sur ces 7 qualifications, ils ont gagné un match minimum 5 fois. C'est-à-dire que depuis que Russell Wilson est dans la ligue, il a que 3 saisons à son actif sans avoir gagné un match de playoffs. Ce qui est quand même, pour tout autre QB qu'un Tom Brady aux Patriots, c'est inimaginable comme réussite. C'est vraiment incroyable. 2 Super Bowls joués, 1 remporté. Enfin, le CV est flatteur. Or, c'est sûr que ensuite, quand tu fais le cumul des choix, 8 choix, seulement un qui est adressé pour la ligne offensive, un receveur, pas de tackle, 2 tight end.
Ils ont cut DJ Fluker le jour d'après avoir sélectionné le guard. Donc, ça prouve vraiment qu'ils n'avaient pas confiance en DJ Fluker. Ils n'en voulaient plus.
C'est ça. Après, on sait que voilà, la recette Seahawks avec la ligne d'amener des joueurs athlétiques, plutôt des athlètes que des joueurs de football finis. Moi, je me dis qu'en fait, eux, ils ont le bénéfice du doute, et c'est peut-être aussi, c'est un de nos désaccords fondamentaux, c'est que je pars du principe que, alors, je veux bien, et ça va rejoindre notre quatrième thème sur la façon dont on entoure un peu le quarterback, Russell Wilson gagne 31 millions de dollars et compte pour 15% du salary cap. Il y a un moment où quand l'investissement sur ton quarterback est si démentiel, c'est aussi normal qu'il a pour rôle de cacher des faiblesses de l'effectif. Ça fait partie un peu des missions du job.
Mais pourquoi, tu vois, quand c'est Russell Wilson et quand c'est Patrick Mahomes, ça marche, mais quand c'est Matt Ryan ou que c'est Derek Carr ou Jared Goff, moi, ça marche pas.
Parce qu'ils sont sur, ils sont dans une stratosphère autre.
Voilà, c'est
que
ça.
Que les maîtres, etc. C'est sûr que,
masquer, y a que ouais.
Ah bah exactement, il y a que très peu de front office qui peuvent se permettre de faire ce que font les Seahawks. Mais après, je leur offre le bénéfice du doute sur les Chiefs, là où déjà dans notre première version de l'enregistrement perdu, j'ai défendu ce choix du running back. Après avoir fait mes recherches, je le défends encore plus. Deux choses rapidement, je vais pas continuer mes monologues. Je l'ai sous-entendu, l'AFC West est dans une course à l'armement. Les Broncos qui sélectionnent Judy, les Raiders, on en a parlé, qui se sont positionnés sur Henry Ruggs, les Chargers qui ont sélectionné ce qu'ils voient être comme leur futur quarterback. Tout le monde, en gros, a comme idée de concurrencer Casey sur de l'attaque. Donc là, t'as deux solutions. Soit tu te dis, ok, j'ai Patrick Mahomes, j'ai une attaque de feu, je m'assois sur mes lauriers, ou soit tu continues à renforcer tes forces, et c'est souvent l'approche qui est retenue en NFL. Ensuite, moi je trouve quand même qu'il y avait un besoin au poste de running back. Damien Williams, alors quand on creuse, certes, il fait un excellent Super Bowl, il est dans la ligue depuis 2014, il a aucune saison à plus de 500 yards, on parle de son Super Bowl, ok, le deux matchs de playoff avant, il gagne 47 yards en 12 courses contre les Texans, et il gagne 45 yards en 17 courses contre les Titans. Donc il y a un moment où c'est pas comme si le mec avait roulé sur les playoffs. Alors la défense au sol des Titans était excellente, et face aux Texans ils étaient dans un profil de match où ils pouvaient pas trop courir. Mais le fait est que c'est pas un joueur qui a fait une saison, il a pas roulé sur la saison, tu vois. Donc ouais. Moi il y a un moment où je me dis, ah bah il y a peut-être le renforcer le backfield offensif, ça c'était logique.
Ce que je me dis c'est que ouais, mais pour moi les performances d'un running back, c'est ça a trop de lien avec la performance de la ligne offensive en fait. Genre, tu vois, j'aurais aimé qu'il prenne un running back comme toi, mais j'aurais aimé qu'il le fasse peut-être au quatrième tour. Alors c'est peut-être pour moi il y a toujours des joueurs à trouver au quatrième tour. Voilà, les Pittsburgh le montrent souvent. Baltimore a montré des capacités de prendre des joueurs, des running backs au quatrième, cinquième tour et de les implanter. Je me dis que voilà, si t'aurais voulu faire une course à l'armement, bah moi j'aurais pris un receveur, tu vois. J'aurais pris KJ Hamler ou tu vois. Alors là encore plus, on pète encore plus un cap. Je pense que voilà, running back, tu vois les Texans l'année dernière perdent Lamar Miller, bah ils vont signer Carlos Hyde que personne voulait, et le mec prend milliard. Pour moi c'est un poste qui est assez remplaçable.
Tu vois, je trouve que justement je suis moyennement d'accord avec ça. Enfin, ok, prendre un running back top 15, je suis pas fan. Mais je trouve que moi, quand tu regardes les running backs dominants, la saison dernière, un peu sur ces dernières années, or si tu enlèves les quelques exceptions, je l'ai dit, les McCaffrey, les Zeke Elliott, qui ont été pris, eux, extrêmement haut, et donc du coup, c'est un peu normal d'attendre une telle production. Les Nick Chubb, les Dalvin Cook, les Joe Mixon, les Derrick Henry, les Josh Jacobs, si tu prends sa saison rookie, Mark Ingram, c'est un vétéran, mais si on compte un peu dans ça, t'as parlé de Carlos Hyde, c'est des mecs pris entre 20 et 60. Ils sont pas pris au troisième tour, ces mecs-là.
Oui.
Tu vois, on est dernier choix du premier tour. J'estime que si de Clyde Edwards-Helaire t'as 5 bonnes saisons où il gagne 1500 yards en combinant course et passe, c'est parfait.
Enfin, la question,
même
c'est
un Alvin Kamara.
Ouais. La question c'est plus ça. C'est est-ce que tu le payes? Est-ce que tu le payes après? La question elle est là.
Non, tu le payes pas. Mais avoir 5 bonnes saisons d'un joueur à un poste comme running back sur un contrat peu onéreux alors que tu vas devoir payer Patrick Mahomes, pour moi, ça a extrêmement de valeur. Enfin, je veux dire, on prend un autre exemple, tu vois, Kareem Hunt, qui était, pour moi, leur dernier running back dominant et celui avec lequel l'attaque de Kansas City était vraiment létale. C'est un joueur qui est pris au troisième choix, 87e, mais parce qu'il a des problèmes hors terrain, il part avant. Ouais. Donc, ouais. Investir à un fin de premier, second sur un running back, moi, je trouve pas ça dénué de sens.
Je suis d'accord. Juste, le problème, c'est que s'il est si bon que ça, après, il y a une pression de le payer et souvent, les équipes tombent dans le piège et payent. Et c'est là que tu te retrouves dans la mouise. Et il y a aussi d'autres exemples de running back qui percent plus haut, ça existe. Chris Carson et tout, mais c'est parce que le jeu des CEO que c'est très basé sur la course. Je suis d'accord avec toi. En plus, le 32, en plus, c'est un fin de premier tour. On peut limite le considérer comme un deuxième tour dans certaines drafts, parce que en termes de board, je me dis juste que ouais, j'aurais pris un corner. Je mens pas, j'aurais pris un corner parce que
ah mais moi, ça se comprend. T'as perdu Kendall Fuller aussi. Enfin, ça se comprend.
Exactement. T'as perdu Kendall Fuller. Tu savais que t'allais perdre Bashaud Briand, selon ce qui est sorti. Les Chiefs savaient. Donc en fait, non, c'est juste une course à l'armement, comme tu as dit. On va marquer plus de points que vous. C'est une philosophie. Ce que je me dis, c'est que ah, il va falloir payer Patrick Mahomes dans pas longtemps. Il va falloir, tu vas potentiellement perdre Chris Jones, comme je te disais. Donc c'est après, j'aime beaucoup les. En fait, j'aime bien ce qu'on fait les Chiefs et les Seahawks les jours d'après. C'est-à-dire, tu prends des poules du côté des Chiefs, tu fais ce que font les Chiefs, tu prends des joueurs avec des problèmes hors terrain mais avec un énorme potentiel. Et si ça marche, bah c'est exceptionnel. Willie Gay notamment, ils ont pris un tackle pour le développer parce que Fisher peut être sur la fin, et puis Seattle, ils ont pris deux tight ends, ils ont pris un guard pour jouer tout de suite, ils ont pris des mecs un peu hybrides, des mecs rapides, ça entoure Wilson, c'est bien, ils ont déjà Metcalf, Lockett, c'est déjà, moi je suis content, c'est juste que après le premier tour, je m'étais dit, ah ouais, je suis pas hyper emballé.
Puisque, juste pour finir, tu vois, si tu regardes la draft des Chiefs d'un point de vue global, si je te dis avant la draft, sans te donner l'ordre, mais qu'ils repartent avec un corner, un edge defender, un safety, un tackle, un linebacker et un running back, t'es conquis. C'est juste, en fait, c'est l'ordre dans lequel ils ont adressé ça qui peut peut-être poser question. On va enchaîner sur un thème un peu relié. C'est bien sûr la grosse question de cette draft. C'est le choix par les Packers du quarterback Jordan Love au premier tour. The Miami Dolphins have traded the 26th pick to the Green Bay Packers. With the 26th pick in the 2020 NFL Draft, the Green Bay Packers select Jordan Love, quarterback, Utah State. Alors Alan, on va faire court, je ne vais pas présenter la situation, tout le monde la connaît. Les Packers, je le fais quand même, les Packers montent un échange pour sélectionner Jordan Love, alors que Aaron Rodgers avait besoin de cible. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, les Packers se font découper depuis ce choix et le reste de leur draft. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la politique des Packers dans cette draft 2020?
Mais ils ont Aaron Rodgers. Tout simplement. Ils ont Aaron Rodgers et fait Aaron Rodgers. C'est-à-dire que ce qui était arrivé 2005, je crois, la draft de vous avez pris, ils l'avaient pris en fin de premier tour à la place de pour être le futur de Brett Favre, bah c'est peut-être ce qui se passe là. Non, après c'est plusieurs choses. Ils se font découper, on va pas se mentir, ils se font découper et on n'était pas hyper. On a eu un bon débat dans l'épisode Caduc tous les deux, où toi tu défendais un peu le choix et j'étais pas loin de te rejoindre sur certains arguments. Le problème avec moi, c'est ce qu'ils ont fait après, en fait. Une draft, elle se gagne dans le deuxième jour. On peut le voir franchement, la base des effectifs, des joueurs dominants, beaucoup de joueurs qui sont draftés au deuxième, troisième tour, même au quatrième, ça c'est des choix importants. Et je me dis, bon, ils prennent Jordan Love au premier tour, on dirait ils trade up. Donc ça, c'est peut-être, en termes de message aussi, c'est pas ouf pour un joueur comme Aaron Rodgers qui peut être un peu psychorigide. Ah ouais, vous montez en plus, tu vois, c'est bon. Mais ça, autre. Mais si ils étaient repartis du deuxième et du troisième tour avec, tu vois, un receveur, un joueur d'impact, bon, un joueur d'impact, on sait pas, et c'est du deuxième, troisième tour, un profil intéressant défensivement, et puis peut-être un autre profil offensif, j'aurais dit ok. Je m'étais dit ok, ils adressent quand même certains besoins, parce que comme on l'a dit tous les deux, et c'est ce qui se dit aussi un peu dans certains analystes, les Packers étaient en finale de NFC, mais ils n'avaient pas le niveau d'un finaliste NFC. Tu vois, les gens qui disent,
c'est un géant de papier.
Enfin, les gens qui disent, faut gagner maintenant, il faut y aller maintenant, ouais. mais l'effectif, il est pas non plus si proche de gagner. L'effectif des Packers, il est pas meilleur que les 49ers, il est pas meilleur que les Saints, il est pour moi pas meilleur que les Cowboys, ou que d'autres équipes. Donc je me dis, ça peut se comprendre, je me dis juste que c'est les choix d'après qui font que pour moi, c'est pas bien ce qu'ils ont fait.
Ouais, je te rejoins largement. Pas prendre de receveur. Il y a un truc marrant, c'est que beaucoup de personnes insistent sur la non-sélection d'un receveur cette année. Il faut savoir qu'ils n'en ont pas non plus sélectionné l'année dernière. Ça fait deux ans que tu ne sélectionnes pas de receveur et ça fait deux ans que tu n'as pas non plus un corps de receveur de malade. C'est encore moins justifié.
Ils en ont pris trois il y a deux ans et c'était Marquez Valdez-Scantling, Jawan Moore et Equanimeous Saint-Brown qui a le meilleur nom en NFL, je pense.
Et Jawan Moore qui est déjà plus dans l'effectif.
Oui,
donc tu vois déjà t'en as plus que deux qui sont là et moi j'avais même noté un truc fabuleux, c'est que pour remonter sur un choix des Packers à l'intérieur des trois premiers tours sur un receveur, il faut remonter à 2015 et Ty Montgomery. T'imagines 5 ans sans prendre un receveur premier tour, enfin c'est incroyable. Pour revenir par rapport à ce que t'as dit, c'est vrai qu'on a eu ce débat là, j'estime que la position de quarterback est tellement importante, si tu estimes que tu as dans Jordan Love un potentiel titulaire sur 10-15 ans, je dis pas que c'est le prochain Aaron Rodgers, je dis juste que si tu vois en lui, tu penses qu'il a les outils pour être un titulaire et un quarterback, franchise quarterback, même si Rodgers annonce vouloir jouer encore quelques années, il faut le prendre. Surtout quand il te tombe comme ça. Et en soi, l'échange, oui, la symbolique de l'échange, elle est forte, mais elle me choque pas. C'est la suite. Prendre un running back des années 30, quand t'as Aaron Jones, certes, t'as Aaron Jones qui a fait une super saison. Et encore une fois, là où je suis d'accord avec toi, je suis prêt à sectionner. Pour moi, c'est un peu un choix de riche, prendre le running back haut. Je suis pas sûr que les Packers étaient dans cette situation-là. Puis la suite, enfin, ça a un peu ni queue ni tête. En fait, tu aurais pu vraiment, pour moi, le choix de Jordan Love passe vraiment si tu fais une suite de draft aux petits oignons pour Aaron Rodgers. Tu ne l'as pas fait et c'est difficile. Après, moi, je fais partie des gens qui disent que on n'est plus face à Aaron Rodgers 2015-2016. Hein.
Non, non. Oui. Mais les gens te diront aussi que c'est parce qu'il a plus Jordy Nelson, plus Greg Jennings. Bon, il a Davante Adams. Ouais, Randall Cobb. Mm. Il a Davante Adams qui est un très bon receveur. Le numéro 2, c'est qui? Allen Lazare? Marquez Valdez-Scantling?
Ouais, c'est... Après, il parie peut-être sur la fameuse théorie des receveurs qui explosent en troisième année.
Ouais, ouais. Puis moi, j'avais bien aimé il y a deux ans ce qu'ils avaient fait. C'était il y a deux ans, ils avaient encore d'autres armes, tu vois. Et ils avaient dit, bon, on en prend trois, et il y en a bien un qui va, tu vois. Et si on regarde, bon, Marquez Valdez-Scantling, c'est une solide cible profonde en quatrième receveur, au maximum, je pense. Mm. Troisième, peut-être. Mais je suis d'accord avec toi sur deux choses. Aaron Rodgers, c'est plus le Aaron Rodgers, prime Aaron Rodgers. Et c'est normal, il a 36 ans. Et il a eu une année avec un nouveau environnement qui était peut-être une adaptation pour lui. Et les Packers sont pas si proches que ça d'aller au Super Bowl, les gars. Genre ils ont des trous. Ils se sont fait rouler dessus par les bonnes équipes. Que ce soit en playoff ou en saison régulière, pour moi, ils peuvent perdre contre Seattle, hein, au tour de division, si Seattle a un play calling offensif plus agressif et plus intéressant dès le début du match. Et puis, défensivement, ils ont fait des beaux ajouts à la free agency, les deux Smith, Adrian Amos, mais il y a quand même des trous dans cette équipe. Alors oui, pour ça que moi je t'avais dit ouais. Ça aurait été intéressant peut-être même de se renforcer défensivement pour améliorer cette défense. Mais en même temps, voilà, si pour eux, Jordan Love, c'était le numéro 1 sur leur board et de loin, bah, je peux comprendre le choix. C'est la suite. Un running back, comme tu l'as dit, qui attrape pas trop la balle, et un fullback slash tight end, les choix au deuxième et troisième tour, c'est... Après, tu prends trois tackles, trois linemen offensifs. Je sais pas. C'est un peu fou, mais faudrait limite voir ce qu'ils ont pris sur le marché des agents libres. peut-être que là, tu vois, ils ont été chercher des receveurs rapides qui, parce que des receveurs, il y a des receveurs qui se sont pas fait drafter parce que la classe était super forte. Il y a 37 receveurs qui se sont fait drafter dans cette draft.
Après, tu peux espérer quoi d'un joueur non drafté, tu vois, d'un Jolim non drafté. Enfin, c'est pauvre. Moi,
c'est pas adresser les besoins, tu vois. On parle de ça, on connaît pas vraiment les joueurs.
Non, mais totalement.
C'est ça.
Après, moi, je reste quand même sur une position qui est que, là où Alan est QB centré, moi, je trouve quand même que on a quand même tendance, sur certains quarterbacks, pas avec d'autres, à être, je dirais, très passif, parce que Aaron Rodgers, j'ai entendu pendant des années que le problème c'était la défense qui se faisait rouler dessus. C'est pour ça que moi, la stat selon laquelle 15 années de suite sans prendre un joueur, un skill player offensif premier tour, moi quand j'ai vécu 5 ans à entendre qu'Aaron Rodgers n'avait pas de défense, je me dis peut-être qu'on a voulu adresser ce besoin là. Après, encore une fois, le poste de quarterback n'a pas de prix. Si tu sais que tu penses que c'est ton futur quarterback, tu le fais. C'est la suite qui n'a vraiment aucun sens. Et d'ailleurs, elle a une petit point, je trouve, question super intéressante, même si on n'a pas toutes les clés pour y répondre. Avant de passer sur un prochain sujet, c'est un point intéressant qui a été soulevé, un personnage, je dirais pas sulfureux, mais voilà, qui est pas forcément toujours apprécié. Chris Sims, qui a un podcast, qui explique, selon lui, Green Bay fait ce choix-là parce que Green Bay est dans une situation unique dans la NFL, ils n'ont pas de propriétaire. Imagine tu te mets à la place d'un propriétaire, je pense que ton front office a beaucoup plus de mal à te vendre le choix d'un quarterback quand t'es allé en finale NFC l'année d'avant.
Et que t'as Aaron Rodgers, t'as pas Blake Bortles. Ouais. La situation de Green Bay, elle est hyper intéressante, de comment ça fonctionne, qui prend les décisions, tout ça. On sait pas vraiment, on sait, mais c'est une situation, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est, tu vois, avec Green Bay, ça s'est fait aussi avec Brett Favre. Hein. Brett Favre, c'est Monsieur Packers. Hein. C'est genre, là-bas, je pense que les fans des Packers historiques, ils sont plus fans de Brett Favre que d'Aaron Rodgers, et pourtant, on leur a fait la même chose, et ça avait énervé, ouais, j'y avais pas pensé, tu vois. Et c'est, maintenant que tu le dis, est-ce que ça aurait pu se faire dans une franchise avec un gros proprio qui a de l'influence, qui est genre, je sais pas, Jerry Jones ou d'autres choses, je suis pas sûr.
Qui met peut-être plus de pression de résultat, tu vois. Il y a peut-être ça. Après, certains peuvent voir ça comme de l'anticipation et de la politique à très long terme, mais ça peut être vu bien, en fait. Je suis pas fan. En fait, moi, si on reste sur le choix de Jordan Love, et on va conclure comme ça cette partie-là, je le comprends. Il est douteux et tu vas vraiment juger sur ce qu'il va faire. Je peux le comprendre. C'est la suite qui est, selon moi, qui a pas trop de sens. Voilà, QB jeune, Jordan Love, QB un peu ancien, Aaron Rodgers, un peu ancien, entre guillemets. On va passer à un autre sujet qui est là, un crossover draft free agency. Parce que moi, j'ai l'impression que là, cette free agency et cette draft, c'est un peu couronné ce que j'appelle la NFL manichéenne. Je trouve qu'on est de plus en plus dans un schéma, c'est un sujet que j'ai proposé moi, avec deux types d'équipes. Alors, on a construit autour de deux types de quarterbacks. Tu as les QB vétérans installés, Russell Wilson, Matt Ryan, Matthew Stafford. C'est des titulaires indiscutables qui ont le niveau, ou la franchise pense qu'ils ont le niveau pour aller au Super Bowl et qui en fait ont juste besoin de construire l'équipe autour d'eux. Puis tu as le second schéma, celui à la mode, prendre un jeune QB, contrat rookie. Son contrat rookie permet de construire avec du lourd autour de lui. Et ça, je trouve qu'on en est arrivé à un point où on le voit de plus en plus. Petite stat, la semaine 3 de la saison dernière a vu le plus grand nombre de quarterbacks de moins de 27 ans débuter. 20, c'est énorme. Et en fait, j'ai l'impression, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Alan, qu'on est de plus en plus dans ce schéma-là, et que dans ce schéma-là, il y a un type de lanceur qui se retrouve un peu perdant. Ce sont les QB vétérans confirmés, mais qui sont pas des potentiels franchise QB qui ne sont plus. On pense à des Andy Dalton, à des Cam Newton. Ces joueurs-là, ils se trouvent du coup, je vais pas dire blacklistés, mais sans vraiment fenêtre de tir pour trouver une équipe.
Ou alors c'est pour être backup. Jameis a trouvé un employeur depuis qu'on avait enregistré. Parce qu'il a pris, il a pris peu d'argent, peut-être même moins qu'il aurait pu en avoir ailleurs, on sait pas, pour être le backup de Drew Brees. Ouais, je suis assez d'accord. Pourquoi c'est un modèle qui se fait? Parce que c'est un modèle qui a fonctionné en quelque sorte. Les Eagles, 2017. Même si en vrai tu me diras, heureusement qu'ils avaient investi de l'argent sur leur backup, parce que sinon ça marche pas. Mais les Rams 2018, Jared Goff au contrat rookie, ils avaient blindé l'effectif à côté. Et puis ça a fonctionné. Même là, Patrick Mahomes, c'est aussi un exemple. Mais Patrick Mahomes, moi, je le prends dans aucun exemple. Que ça soit construction d'attaque sur la vitesse, que ça soit est-ce que t'as besoin d'une ligne, est-ce que t'as besoin de t'entourer. C'est Patrick Mahomes. Je calcule pas. Mais ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est une ligue, des ligues américaines, c'est une ligue qui se copie entre elles quand ça fonctionne, jusqu'à que ça fonctionne plus et que une autre équipe trouve autre chose. Et là, bah, on est dans ça. On est dans ça, bah, avec les Bills, par exemple. On est dans ça avec, je sais pas s'il y a si on a d'autres exemples, mais on est ça avec les Cardinals.
Ouais. Ça avec Cardinals, Bills, les Ravens d'une certaine manière. Enfin, il y a quand même.
Même les Bears, tu vois, les Bears ont réussi à aller en playoff. Et en blindant, ils ont tradé pour Mac. Tu trades pas et tu proposes pas une extension avec Khalil Mack si tu n'as pas un QB en contrat rookie, ça marche pas.
Ouais, totalement. Et d'ailleurs, tu parlais même de la possibilité pour eux d'être remplaçant. Tu vois, pour certains QB qui restent, selon moi, d'un bon niveau, solide, vétéran avec un bagage, je me demande même s'il n'y a pas maintenant dans la pensée des front office l'idée du risque potentiel que ça pourrait être pour ton jeune quarterback. Je prends un exemple. Tu ramènes un Andy Dalton pour un Sam Darnold. À quel moment, tu vois, si Sam Darnold fait pas une bonne saison, tu vas pas commencer à avoir le proprio ou les fans qui vont commencer à dire « Eh, mais t'as quand même Andy Dalton, il a fait ça et ça. » Parce que moi, quand je regarde la situation de certaines équipes au niveau des QB remplaçants, je parlais des Jets. QB remplaçant des Jets, c'est David Fields. Va pas me dire que Cam Newton ou
Ils ont drafté un mec au quatrième tour. Je pense que ça, c'est pour être le remplaçant. James Morgan.
Voilà, mais enfin, tu vois, je pense que maintenant on est dans un moment où on préfère limite, comme on fait les Bills avec Jack Fromm, drafter un QB quatrième tour, sachant qu'il va pas forcément mettre en concurrence le QB titulaire, plutôt que d'investir dans un vrai vétéran, ou alors on prend un vétéran qu'on sait tellement, j'irais plutôt dans le rôle mentor que dans le rôle vraie menace. Que du coup, on sait qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque qu'ils prennent
la place. Le Brian Hoyer type.
Exactement. Enfin, regarde le QB remplaçant des Broncos, c'est Jeff Driscoll. Le QB remplaçant des Bengals, bon, maintenant qu'il n'y a plus Andy Dalton, c'est Ryan Finley. Enfin, il y a vraiment cette idée de, faut pas que je mette, et pour moi, le paroxysme, c'était les Jaguars il y a quelques années avec Blake Bortles, je ne mets pas mon QB, jeune QB rookie, dans une position où je peux le mettre en délicatesse, d'où le fait que des mecs... Vas-y.
Je crée pas de compétition.
D'où le fait que pour des mecs comme Andy Dalton, Cam Newton, c'est totalement compliqué parce que tout le monde va investir son jeune quarterback et blindé autour. Et enfin, on en parlait dans l'émission qui a sauté en AFC, mais en AFC, t'es sur un rapport de force où le trois quarts presque des équipes a un QB titulaire qui est en contrat rookie. C'est incroyable.
Ouais, avec des situations différentes. Beaucoup, c'était un choix, on l'a pris au premier tour. D'autres, c'est pas... Patriots, c'est un cas un peu différent. L'effectif est blindé parce que on voulait maximiser les dernières années de Tom Brady en ayant le meilleur effectif possible. Et là, on se retrouve avec un très bon effectif, défensivement notamment, et un QB contre un rookie. Donc, c'est pas un peu pareil, mais on se retrouve quand même de facto avec ça. Et ouais, c'est comme tu l'as dit, voilà, Denver, c'est un bel exemple. Denver, ils traitent des choix de draft pour aller chercher des vétérans qui sont sur des gros contrats, et Jay Bouillet, Jarrell Casey, ils blindent la draft de playmaker, à chaque fois d'espèces de meilleurs joueurs disponibles et tout ça. Ça, c'est un bel exemple de ça encore. Et comme tu l'as dit, si Cam Newton signe en backup de Drew Lock et que, au bout de 5 semaines, ils sont 1-4, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce refus de créer de la compétition. Là où, par exemple, je pense que si les Patriots avaient un cap space, connaissant Belichick, on aurait signé un backup, lui, il s'en fiche. Il cut des second tours pour des undrafted au même poste, hein, si jamais t'es pas, tu vois. Mais il y a beaucoup de ces situations où je suis d'accord avec toi, c'est ce refus de pas créer de la compétition, tu vois. Là, Buffalo, ils ont un jeu où, par exemple, ils pourraient signer un QB en passant Allen, il prend pas mal de risques, il peut être blessé, mais non. Ils ont pris Fromm, ils ont Matt Barkley.
Tu vois, Buffalo peut prendre, dans le système Buffalo, Cam Newton, en plus, Sean McDermott, ça a du sens. Ouais. C'est juste que tu peux pas ramener décemment Cam Newton derrière Josh Allen.
Non, tu peux pas.
Pour moi, même en tant que front office, moi, c'est une décision que je ne prendrais pas. C'est un trop gros risque. C'est un... Et puis aussi, il y a la question, vu que tu as le contrat rookie, il y a l'idée de maximiser, c'est quand même des mecs, des Andy Dalton, des Cam Newton, jusqu'à preuve du contraire, tu vas devoir quand même les payer un peu plus cher qu'un QB remplaçant classique. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi, mais...
James, lui, l'a accepté parce qu'il avait accepté Bridgewater aussi.
C'est totalement.
C'est, tu vois, c'est d'être remplaçant. Et tu vois, j'aime bien Bridgewater, c'est pas mon QB préféré. Mais est-ce qu'ils n'ont pas surpayé les Panthers, sérieux?
Totalement. Mais Bridgewater, leur idée, c'est d'en faire le remplaçant dans l'année. Les Panthers, faudra en parler. On en parlera dans un prochain épisode. Ce que je trouve, c'est fascinant, ce qu'ils ont fait. Pas seulement de prendre que des joueurs défensifs. Pour moi, leur idée, c'est qu'ils pensent déjà à leur prochain quarterback et ils veulent déjà penser à comment construire l'attaque autour de ce prochain quarterback. Donc, ils prennent personne en attaque et ils attendent de voir qui sera leur quarterback pour tout armer autour de lui. Ouais, pour moi, c'est ça leur idée.
C'est ça. Et ils prennent un QB moyen plus qui leur permet quand même d'évaluer ce qu'ils ont, des playmakers. Pas autour. Un nul qui s'est même pas lancé, tu vois, qui peut même pas me mettre en situation. Ils vont quand même un joueur décent pour voir ce qu'ils ont dans les receveurs et dans tout ça.
Et d'ailleurs, juste pour, alors c'est un mot que vous allez entendre souvent. C'est ma théorie. Une petite phrase de, une phrase signée Ben. Pour moi, on est vraiment dans ce phénomène-là parce que on a eu un trou monumental au niveau des quarterbacks dans les drafts. Si tu prends, je vais te poser une question, Alan. Entre les, je te mets sur le grid sans t'avoir prévenu. Entre la draft 2009 et la draft 2015, parmi tous les QB sélectionnés, combien sont encore titulaires dans l'équipe qui les a sélectionnés? 2009-2015.
Attends, je réfléchis, hein. Mais Derek Carr.
Derek Carr, très bien. Ah, c'est celui que je pensais que t'allais pas trouver, Derek Carr.
Derek Carr. Ryan, c'est 2008, donc c'est pas... Stafford.
Stafford, ouais, et il t'en reste un. On en a parlé en plus.
Ouais.
C'est pas que des premiers tours, hein, je précise.
Non, c'est pas que des premiers tours. Russell Wilson.
Exactement. Stafford, ouais. Wilson, Carr. Alors, corrigez-moi sur Twitter si je me suis trompé. Et en fait, pour moi, tu vois, on est dans cette situation-là où on a beaucoup investi dans les jeunes QB, parce qu'entre 2009 et 2015, c'est le vide total. Tu vois, t'as trouvé Wilson, Andrew Luck et Robert Griffin III sont pas devenus ce qu'on avait espéré.
Non.
Bradford n'a pas été le quarterback espéré. Winston, Mariota sont des remplaçants. Je parle même pas de E.J. Manuel et Geno Smith et de la classe de QB 2013. Et enfin, 2011, Newton, Dalton sont à la fin du cycle, on pas su être des trentenaires heureux comme ceux de la décennie précédente. Donc en fait, il y a un moment où s'est posé la question, et il y a eu le moment où et c'est pas un hasard, j'ai arrêté 2009-2015, 2016, c'est Goff, on a parlé, c'est l'exemple Rams, c'est Wentz, c'est l'exemple Eagles, et c'est Prescott, c'est l'exemple Cowboys. Et c'est du coup là, les gens ont dit, attends, nous ça fait 6 ans qu'on sélectionne, on récolte rien. Eux, ils ont pris un jeune QB, ils ont blindé, et les Cowboys avaient le premier bilan NFC, ensuite les Eagles sont allés gagner un Super Bowl, et les Rams de golf vont jusqu'à un Super Bowl perdu. Et je pense que ça, c'est ça qui a activé un peu la lumière dans pas mal d'effectifs et de front office.
Ouais, je suis assez d'accord sur ça.
Et enfin, pour finir, ça aurait pu un peu racoler le choix Jordan Love du côté des Vikings, oula, grosseur des Packers, je dis Vikings parce que j'ai les Vikings dans mes notes sur ce sujet-là, ou les Seahawks qui font un peu ça. T'as voulu insister, Alan, sur les besoins anticipés. Les équipes qui, dans cette draft, ont décidé de sélectionner des joueurs peut-être un ou deux ans avant l'échéance d'un joueur star.
Ouais, exactement. Ou les joueurs qui ont, en fait, les effectifs qui ont tradé un joueur qui arrivait à la période où il fallait lui donner un deuxième contrat, qui était des très bons joueurs, mais qui n'avaient pas forcément les sous pour les payer, qui les ont tradés, et qui ont après, soit avec le choix qu'ils ont récupéré, parce que c'est quand même des bons joueurs, donc ils ont récupéré des premiers tours pour ce choix-là, soit avec leur choix propre du premier tour, ont sélectionné un joueur au même poste, en fait. Donc c'est le cas avec, Jeff Okuda, selon pas mal de gens, c'était peut-être le meilleur joueur, on était peut-être pas trop d'accord tous les deux, mais pas mal de gens l'avaient en troisième. Les Détroit trade Darius Slay, il prend une extension 3 ans 50 millions, c'est cher, c'est Darius Slay, c'est un très bon joueur, et ils prennent Jeff Okuda. Les 49ers, comme on l'a dit, ils ont échanger DeForest Buckner aux Colts. Il signe 4 ans, 84 millions en extension, et puis draft Kinlo à la place. Les Vikings, ils ont tradé Diggs à Buffalo. Ils prennent Justin Jefferson à la place, et puis on peut même parler des Jaguars, parce que pour moi, il faut que Yannick Ngakoue s'en aille, parce que ce qui se passe sur Twitter depuis deux semaines avec le fils du président, c'est irréel, et donc ils ont pris Kelavon Chason. Même si, voilà, dans certains choix, c'était peut-être même le meilleur joueur disponible, c'était le meilleur joueur disponible tout poste confondu, c'est quand même intéressant de voir que chez quatre de ces équipes, c'est des choses qui se sont faites.
Ça rejoint un peu ce jeunisme qu'on peut voir, parce que souvent c'est des choix de draft. Après, pour moi, je vois des situations un peu différentes. Côté ouais. Vikings, je les avais un peu détruits dans la mock draft. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait à la draft. Encore une fois, je donne pas de notes, je dis juste.
Ils avaient 15 choix.
Compris qu'ils avaient. Ouais, je pense que la politique a fait. Ils ont compris qu'ils devaient vraiment. Il y avait des besoins dans pas mal de domaines de l'effectif, et je pense qu'ils ont tenté d'y répondre. Là où moi je suis un peu plus réservé, c'est avec des choix, par exemple, des équipes comme les 49ers. On en a beaucoup discuté dans, encore une fois, cet épisode perdu. Je suis pas sûr que ça soit ton corps de receveur qui te fait perdre le Super Bowl. Je suis sûr d'une chose, ce n'est pas ta ligne défensive qui te fait perdre le Super Bowl. Ah non. Je pense que c'est plus, par exemple, ton backfield défensif qui aurait pu être adressé. Richard Sherman vieillit. Derrière lui, c'est pas non plus, enfin, c'est pas une référence.
C'est qui le deuxième corner de l'équipe? Greenlow? Dre Greenlow? Ah non, c'est un linebacker, lui. Non, comment il s'appelle? Emmanuel Mosley, non? Ou, parce que c'est pas Kelo Witherspoon. Non.
J'allais dire Kelo Witherspoon, tu vois, mais tu, enfin, c'est, alors, ça marche quand t'as un gros pass rush, mais, tu vois, si tu, enfin, c'est, là, c'est du football fiction, mais, si tu vois, et ça arrive souvent, ça, faut se méfier des lignes extrêmement dominantes, les défenses dominantes, les Jaguars, les défenses dominantes, les Bears, les défenses dominantes sur un an, tu sais pas c'est quoi la réalité l'année d'après, si le pass rush descend un peu côté 49ers, le backfield défensif va être beaucoup plus, enfin, on va voir les faiblesses de ce backfield défensif davantage. Et c'est pas forcément ce que, tu vois, c'est pas forcément ce que j'aurais fait. Après, on l'a dit, on l'a répété, les 49ers ont une vision de la draft où tu regardes leur dernière draft, ils sélectionnent toujours les mêmes choix, toujours au même moment.
Mmh. Et puis, c'est système Seattle, défensivement. Donc, importance des trois niveaux. Et ils sont pas vraiment dans la recherche de corner, lockdown man to man. Mais après, j'avais dit ça après le premier jour, tu vois, donc j'aurais trouvé ça bien qu'ils en prennent quand même un, ils en ont pas pris. Ils ont pris que des joueurs offensifs. Tight end, ils ont pris un mec de ligne et tout ça, donc c'est...
Le traumatisme Chiefs, mais c'est terrifiant, tu vois. Par exemple, on reprend nos trois receveurs du début, c'est quand même vachement intéressant qu'il y en a un parmi les trois qui est dans l'AFC West. Henry Ruggs, ouais. Et il y en a un autre, Brandon Ayuk, qui est dans l'équipe qui a perdu face au Super Bowl face aux Chiefs.
Exactement. C'est des joueurs qui ont été confrontés, des équipes qui ont été confrontées à ça.
Et d'ailleurs, petite note avant qu'on parle rapidement de ce qu'ont fait nos équipes, on va parler ça en une minute. J'ai trouvé aussi que cette draft, vu le contexte particulier, eh ben, les équipes ont été encore plus radicales au niveau de leur philosophie qu'à l'accoutumée. Je pense par exemple les 49ers, ligne offensive receveur, les Patriots, descendu, les Seahawks, on prend des mecs 50 choix avant et on essaye de trade down, mais visiblement ça a pas marché. Les Vikings qui ont, tu vois, Mike Zimmer, il a pris son type, ses types de joueurs. Je prends l'exemple de mes Ravens, ça a été classique, on fait pas dans le fantaisiste, on attend le meilleur joueur qui descend, on le prend, si c'est un poste de besoin, c'est parfait. Enfin, je trouve vraiment que les front office sont restés, mais ont été, ils ont vu le manuel de la franchise, les front office sont restés, mais vraiment couchés sur leur philosophie, dans ces temps incertains.
Et puis, ouais. Et puis on a eu Miami qui a fait croire à un truc et puis qui a fait un autre choix. Ils ont bien joué leur coup aussi.
Bon, on va conclure, Alan, cet épisode. Un petit mot, bien sûr, ouais. Parce que, comme on le dit sur notre présentation Spotify ou encore SoundCloud, on promet d'être objectif, on ne sera peut-être pas tout le temps. Un petit mot sur la draft de tes Patriots. On attendait quarterback, on n'a pas eu quarterback.
On aurait pu attendre quarterback et receveur. Puis Bill et son chien ont décidé de prendre aucun des deux. Elle a justifié ça en disant que l'année dernière, ils en avaient investi un premier, tour sur un receveur et en vrai un deuxième vu qu'on avait tradé pour Mohamed Sanou, trade que j'avais défendu à l'époque, je sais pas si tu te souviens. Passons. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris deux tight ends, je trouve ça bien. Je commence pas par les premiers choix. Je pense qu'on a pris deux tight ends, je trouve ça bien. On a, parce que Matt Lacoste, Ryan Izzo, Ben Watson, non. Voilà. On a pris deux tight ends et profils intéressants. J'ai hâte de voir ça au troisième tour. Avant, on a pris qu'on a pris deux linebackers, des joueurs qui peuvent être un peu hybrides. Fallait remplacer Van Noy, fallait remplacer Collins, fallait prendre un peu de, rajouter un peu de jeunesse dans cette défense. On a pris Kyle Duggar, je vais pas trop en parler, parce que je vais pas parler d'un joueur que j'ai pas vu jouer, en fait. Tout simplement. Et eux, ils l'ont vu au Senior Bowl, ils l'ont vu au Combine, ils doivent savoir mieux que moi. Et puis ensuite, passons sur le kicker. Et puis, ouais. Trois joueurs de ligne. Je pense que ce qui se passe à la fin, c'est qu'on n'a pas cette place dans l'effectif. Et on a pris des joueurs sur la ligne parce qu'on a eu des petits départs. C'est pas des joueurs trop d'impact. Je pense que la draft se limite surtout aux six premiers choix. Et ensuite, deux QB qu'on a signés en rookie non drafté. À voir. Mais je pense que voilà, c'est Stidham qui a les cartes en main.
Alors, côté Ravens, après le deuxième choix, j'étais pas forcément dans un état mental optimal.
Surtout quand nous, on a trade up pour prendre Uche. Je sais que c'était...
Ouais, j'aimais bien ce pass rusher de Michigan. J'aimais bien ce pass rusher de Michigan. Et c'est vrai qu'on m'aurait dit, avant la draft, les Ravens partent sans edge rusher. J'aurais un petit peu vu rouge. Après le deuxième choix, je vois rouge. Alan peut témoigner d'un message audio qui a été envoyé après le deuxième choix de J.K. Dobbins. Où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, je me suis arrêté deux minutes, je me suis dit, bon, c'est le front office des Ravens, c'est Eric DeCosta, ça a été voilà, le padawan d'Ozzy Newsom, il y a un moment où je dois faire confiance. Et par la suite, j'ai compris. Il a pris Malik Harrison, un joueur que j'aimais bien, et on voit en fait que les Ravens sont une stratégie qui est toujours de doubler un besoin. Ils doublent un besoin. Besoin de linebacker, on prend Patrick Quinn, Malik Harrison. C'est pas le même type de linebacker, mais on double un besoin. Besoin au niveau des receveurs, on double. Et surtout, on fait plus, enfin, on a vraiment le style de receveur apprécié, main sûre maintenant. On arrête de prendre des Breshad Perryman, on prend plus des phénomènes athlétiques, on prend des mecs qui ont des mains sûres, ce qu'il faut attraper. Parce que le match des Titans a dû causer quelques migraines au front office. Ensuite, on met du pass rusher, on intègre du pass rusher intérieur. Enfin bref, je comprends où va aller la franchise et j'ai plutôt apprécié cette draft parce que on a répondu aux besoins de manière agressive et un petit côté athlétique. Parce que autant l'attaque des Ravens, je la trouve athlétique, autant la défense, c'est plus une défense intelligente qu'athlétique. Donc voilà. Alan, premier bilan, on aura le temps. Hein. Premier bilan de cette draft effectuée, on était plutôt sur des grands thèmes, on s'avance, voilà, on donne un petit teaser. Prochaine fois qu'on va se retrouver, on va sans doute parler de nos pronostics, mes pronostics avec des grosses guillemets pour la saison prochaine. Quelque chose à rajouter, un dernier mot sur cette draft avant de fermer en partie ce chapitre?
Ouais, c'était cool de voir Roger Goodell changer de tenue tous les 10 choix. Et d'avoir un mal de dos complet à la fin du deuxième jour, c'était bien d'avoir un peu de sport dans ces temps sans sport. Donc ouais, ça a fait du bien. Puis c'est super la draft, on est tous super contents de nos choix, on est tous, on va avoir des matchs en entier des joueurs après sur YouTube, on se vend nous-mêmes des choses, et puis en fait après t'as Bill qui va cutter tout le monde parce que voilà, ça l'intéresse pas.
C'est vrai que ouais, j'avoue dans un moment de faiblesse parce que moi j'avais zappé les running backs pour pour moi, pour les Ravens, ça n'avait pas d'intérêt. J'ai vu J.K. Dobbins contre Clemson, je me suis dit ok, je comprends peut-être l'intérêt du choix. Et ben du coup, nous, on risque de se retrouver. Alors, comme vous l'avez dit dans le premier épisode, on tâtonne encore, on voit comment ça a été reçu. On vous remercie pour vos retours positifs par rapport au premier épisode. On va probablement partir peut-être sur une bimensuelle toutes les deux semaines, mais on va encore s'adapter. Ce qui est sûr, c'est comme je l'ai dit, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts. S'il y en a où vous écoutez votre podcast et qu'on n'est pas encore présent, n'hésitez pas à vous nous envoyer un petit tweet et nous, on va l'ajouter, le safety, sur cette adresse. D'ailleurs, n'hésitez pas surtout à nous suivre sur Twitter, @lesafetypodcast. Hein, si vous nous connaissez de Dunk Hebdo, ça sera relié sur le compte Dunk Hebdo, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison de rater le safety. Alan, je te souhaite bonne chance parce que je sens que tu vas regarder du coup, comme tu l'as dit, des matchs sombres de joueurs de 3ème division NCAA pour savoir ce qu'il y aura dans le practice squad des Patriots la saison prochaine.
Exactement.
Et on vous souhaite du coup une bonne semaine, bonne NFL et à plus. Salut.
Salut.